France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit un artiste impossible à ranger dans une case. Pianiste virtuose, génie musical, rappeur, producteur, performeur, provocateur, mais surtout entertainer au sens le plus noble du terme. Chilly Gonzalez a été formé au classique et au jazz, mais il a passé sa carrière à dynamiter la hiérarchie entre musique dite savante et musique populaire. Il a collaboré avec les Daft Punk, Drake, Philippe Catherine, Tequila Tex et j'en passe. Il a sorti des albums de piano solo devenus cultes. Il a battu le record du monde du plus long concert solo et il monte sur scène en peignoir et en pantoufles comme pour rappeler que la musique n'est pas un musée mais un lieu de vie. Ces derniers mois, Chilly Gonzalez est plus que jamais au cœur du rap francophone. Collaboration avec Souffrance, Théodora, Jean Jass, Caballero, Giorgio et surtout Zilch. Une série originale où il invite des rappeurs et rappeuses à créer un morceau à partir de rien en une seule journée. Le premier épisode diffusé hier l'a réuni avec Daniil. Avec lui, ce soir, on va parler de rap, évidemment, de musique classique, de liberté créative. Chilly Gonzalez est avec nous à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Comment ça va, Chilly ?
Coucou. Moi, ça va très très bien.
Coucou. C'est comme ça que tu ouvrais ton dernier album, French Kiss.
Ben oui, coucou, c'est mon mot préféré pour être dans le rythme. Coucou, je trouve que c'est un mot qui est un instrument de percussion, donc moi je le mets dans tous mes couplets.
Je crois que tu te définis presque d'abord comme un entertainer que comme un artiste. Pourquoi ?
Ben, entertainer, j'ai l'impression que ça contient déjà le métier d'artiste, parce que les moments où je compose chez moi, les moments plus solitaires de création, bien sûr, je suis artiste parce que je fais plaisir à moi-même dans un premier temps. Après, il y a le deuxième temps où il faut amener ça au public. Et là, il faut rentrer dans une autre façon de voir les choses. Et moi, je vois ça comme le prisme de l'entertainer. Comme toi, tu as évoqué, dans le sens le plus noble du terme. Pour moi, entertainment, ça ne veut pas dire un truc cynique où on fait des trucs faciles, qu'on sait qu'ils vont marcher. Mais de faire des trucs sans compromis dans un premier temps. Et après, faire le plus pour après amener les gens, raconter l'histoire d'une manière cohérente, amener par le main le public pour qu'il puisse comprendre ce truc bizarre sans compromis qu'on a fait.
Est-ce que Chilly Gonzalez, c'est quand même un personnage ? C'est comme, tu sais, il y a Clark Kent et Superman, Bruce Wayne et Batman et j'en passe. Est-ce qu'il y a Jason Beck et Chilly Gonzalez ? Ce sont deux personnes différentes.
Tu vois l'émission Curb Your Enthusiasm ?
Ne me lance pas sur Larry David.
Voilà,
c'est une de mes grandes passions.
Donc Larry David, dans Curb Your Enthusiasm, il le dit bien. Il dit que c'est la version fantasmée de comment il aurait bien se conduire dans cette société où il n'a pas le droit de jour à jour, mais dans l'émission, il a le droit de vraiment vivre comment il veut vivre. Moi, j'ai l'impression que c'est la même chose. Sur scène, il y a une espèce de fantasme de l'impunité, du génie musical. Il y a aussi une fragilité, bien sûr, d'être sur scène. Mais tout ça, c'est des trucs que je ne me permets pas de montrer dans la vie normale. Oui. Donc, c'est un personnage, mais un personnage qui est basé sur des vrais faits. Le fait qu'on rêve d'être tous autres qu'on est. Mmh. Et donc, pour moi, d'aller sur scène, bizarrement, c'est plus intime d'appeler ça Chilly Gonzalez et d'être un peu dans mon truc de pantoufles et robe de chambre. Bizarrement, en montrant mes fantasmes, j'ai l'impression d'être plus intime que d'autres artistes qui se disent être le même sur scène qu'ils sont dans la vraie vie. On a appris ça avec David Bowie ou Frank Sinatra ou Madonna ou plein de rappeurs, que c'est bien sûr un fantasme. Mais il ne faut pas croire que le fantasme, ça veut dire que c'est faux ou qu'on joue un rôle comme mettre un chapeau de cowboy et dire maintenant je suis cowboy. Tout ce que je fais sur scène, c'est ouvrir un robinet un peu bizarre, le robinet interdit, et tout ce qui sort, j'accepte sans filtre.
Alors, tu as cité Larry David, c'est drôle puisqu'il n'y a pas longtemps, tu as sorti un projet commun. Enfin, on va en parler de façon de la manière dont tu t'es imprégné, emparé même du rap francophone. Et t'as sorti un projet commun avec Obia Le Chef, qui est un rappeur québécois, dans lequel il y a un morceau qui s'appelle Larry David, Tony Soprano.
Si c'est pas l'argent qui part, prends le répondeur. Je voulais vider mes yeux que la vider son cœur.
Larry David et Tony Soprano, killer collabo, deux micros et mon piano. Larry David et Tony Soprano,
It's your favorite show coming soon to HBO.
Donc, référence évidemment à Curb Your Enthusiasm que tu as cité et aux Sopranos, deux shows mythiques de HBO. Et en fait, toute cette espèce de moment où ça fait quelques années maintenant qu'on te voit de plus en plus présent dans le rap francophone. Alors, ton amour pour le rap, enfin, ça fait partie de toi depuis le début, t'as toujours rappé, mais ta présence dans le rap francophone, elle est assez récente, mine de rien, même s'il y avait eu des choses avec Tequila Tex à l'époque. Et puis, évidemment, on a l'impression que Zilch, donc ce show que tu incarnes, c'est presque la dernière étape, en tout cas une étape supplémentaire là-dedans. Pourquoi tu as voulu créer cette émission ?
Oui, au fait, en 2023, j'ai sorti French Kiss, qui est un peu mon lettre d'amour à la culture française.
Ouais.
Et pendant que je commençais cet album, j'ai voulu écrire des textes et je me suis commencé à intéresser au rap francophone, un peu pour la première fois, même si je connaissais La Rumeur, par exemple, dans le début des années 2000.
Et avec qui t'as collaboré depuis, d'ailleurs, La
Rumeur. Oui, exactement. Et Tequila Tex, comme tu as évoqué. Mais c'est là où vraiment j'ai pris une claque, surtout en regardant les vidéos freestyle de Grunt. Si les gens ne connaissent pas, c'est une plateforme de freestyle géniale depuis une douzaine d'années, je crois, ou quinzaine d'années.
Oui, même 15 ans, oui, tout à fait.
Et je suis vraiment tombant amoureux de cette scène. Et donc, j'ai voulu tenter faire mon propre grunt.
Oui.
Et donc, j'ai fait grunt numéro 63 avec des rappeurs aussi variés que La Rumeur, avec Lil Juice, Sheldon, M. Le Maudit, Jules, Bob Marley, plein de gens. Et en faisant ça, je me suis dit, il y avait des trucs où j'ai négocié un peu avec les rappeurs, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce grunt. Et je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y a pas une caméra qui peut capturer tout ça, parce que cette espèce de rencontre entre mon monde, que je connais très très bien le rap, malgré ça, je suis pianiste de base. Et donc, comment faire en sorte que le rappeur soit d'accord pour qu'on fasse le morceau ensemble. Et donc, j'ai eu l'idée, depuis avoir tourné ce grunt 63, de faire une espèce de version où on voit un peu ces conversations qui peuvent se passer entre un pianiste et un rappeur qui se rencontrent pour la première fois.
Alors, le premier épisode est sorti, comme je le disais, hier, et il est avec Daniel, et ça ressemble à ça.
Wouldn't it be cool if you came over to the piano and played with me, là?
J'ai plus mâché mes mots, je vais les cracher de mes tripes. Ce que je vous ai caché, je le montre. Ce que j'ai pas dit, je le crie. La voix dans ma tête qui doute, j'aurais pas dû l'écouter. En voulant vous plaire à tous, j'ai fini par me dégoûter. À un moment donné, des relents, y'avait plus rien dans mon regard. J'étais absent, mais je suis relâ. J'étais absent, mais je suis relâ. Je le sentais pas, mon cœur qui boit sous mon tech pack. Fallait que je vous parle avant de décale. Fallait que je vous parle avant de décale. S'agir pour mon bien, si c'est ça la mort, je pas qu'on m'aime. Me faire entendre, j'y compte bien, c'est la dernière chance pour qu'on se comprenne. Je connais le chemin pour me sauver. Si j'y vais pas, je pourrais pas me le pardonner. J'écoute plus personne.
C'est Daniel qu'on entend avec toi, évidemment, piano. Daniel qui vient d'ailleurs de sortir son premier album, Zmik, sur lequel tu es également présent, le temps d'une outro, d'ailleurs, qui fait écho à celle de Marvin's Room. On en reparlera un peu après.
Mais c'est quoi ce bruit qu'on entend à un moment ? En fait, ce bruit, il faut dire aussi que Zilch, les artistes croient qu'ils viennent pour une séance de studio, entre guillemets, normale.
Ils ne sont pas prévenus exactement de ce qui va se passer avant.
Voilà, ils croient juste faire du son et qu'on va filmer. Après, avec ma co-créatrice et la réalisatrice Francis Salvatore, on a décidé de lancer des petits trucs un peu déstabilisants, bénévolement. Déstabilisant. Ça veut dire qu'à un moment, quand on est en train, par exemple, de montrer que la journée soit chronométrée, je suis en train de lutter un peu avec un bande de gaffeurs.
Oui, c'est interminable.
Ouais,
c'est
voilà. Ça, et ça dure beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Et à un moment, Daniel est obligé, avec son grills sur ses dents, de couper mon gaffeur pour moi, pour après mettre l'horloge sur le piano. Et finalement, plus tard, quand on fait l'enregistrement du morceau, il faut dire après 7-8 heures de travail et de trucs hyper déstabilisants, et des guests surprises comme Thury qui arrivent quand on croit que c'est le livreur des Deliveroo. Ouais. Finalement, c'est Thury qui nous amène la bouffe, il faut le dire. Il y a des trucs comme ça qui fait qu'à la fin de la journée, il y a des trucs, on est tellement un peu fatigué et on fait le tournage du morceau et l'horloge tombe. Et c'était pas planifié. Mais ça veut dire que Zilch, c'est un esprit de créer un système où on peut toujours être surpris. On ne veut pas simplement montrer le truc un peu prévisible, faire un piano-voix, merci, bonsoir. C'est vraiment un morceau qui se crée de rien, personne ne prépare rien. Surtout le début de la journée se passe avec une petite conversation et on espère que cette conversation avec Daniel, par exemple, on parle de nos papas et le fait qu'ils n'ont pas forcément voulu qu'on soit artiste et finalement, on entend que cette conversation nourrit les paroles du morceau.
D'ailleurs, je revoyais l'épisode tout à l'heure, je regardais les commentaires, quelqu'un disait le fait que l'horloge tombe, ça rajoute quelque chose, une forme de supplément d'âme à l'épisode parce que justement, on voit des choses qui pourraient arriver dans une session de studio normale. En fait, tout n'est pas cliné justement pour la vidéo. Alors, on l'a dit, on l'a évoqué, t'as sorti l'album French Kiss en 2023, si je ne dis pas de bêtises. Dessus, il y avait une collaboration que j'adore, un vrai morceau de rap avec Tequila Tex, un morceau de rap qui pour moi, et je crois que vous l'aviez dit, est un peu la version française du Fast Life de Kool G Rap et Nas à l'époque, pour celles et ceux qui se souviennent de ce morceau classique, un morceau où vous êtes juste heureux d'être ensemble, de célébrer la vie, voilà, comme deux vieux copains qui se retrouvent, sachant que Tequila en plus avait lâché le micro à l'époque, donc tu l'as ramené dans le rap français. On s'écoute ça, Chilly Gonzalez et Tequila Tex, donc pour le morceau Nos meilleures vies, extrait de l'album French Kiss.
Coucou, c'est ton chouchou Chilly Gonzo, moustache de gigolo, comme dans un film porno. J'enlève mon kimono, trop chaud. Je suis penché sur mon piano, mais je suis pas Quasimodo.
Boss.
À l'époque, j'étais accroupi sur les groupies. Ma vie était un movie, je cachais mes soucis. Aujourd'hui, je me coule un bain et j'allume des bougies. J'écoute Nana Mouskouri, je vis ma meilleure vie.
Oui, oui,
j'ai massacré des sacrés musiciens. Y'avait Mathieu et Benjamin et Sébastien. Aujourd'hui, fini les bifs, je suis végétarien. Je bouffe la ch*** de ma copine tous les matins. J'ai pleuré les larmes de Dalida. Aujourd'hui, je ris comme si Eric Satie fumait de la sativa. Fini les malaises, fini les malheurs. Je finis mon couplet en tonalité majeure. On vit nos meilleures vies, n'en déplaise aux tristes cires. On est des jouisseurs, on arrive sur la scène en hydroglisseur. On améliore la vie des gens avec ce morceau. C'est la fin des haricots, c'est Tequi Tek et Chilly Gonzo. Ferme les yeux, ça fait envie. J'te dis qu'on vit nos meilleures vies. C'est ça le putain de paradis. De vieux amis qui vivent leur meilleure vie.
Hey yo, c'est le retour de l'oncle Mémé Latex. Stoppez tout, prévenez la presse. Les rappeurs, baissez la tête. Un rap qui va vous déboucher les artères ou vous caresser la fesse. Dans tous les cas, c'est la fête. Quand je me balade dans mon quartier l'après-midi, les commerçants me disent bonjour comme dans La Belle et la Bête.
Bonjour.
Mon cher Chilly, vous interrompez ma retraite. Je veux bien refaire ce truc de rap parce que je connais la recette. Pendant que je faisais la sieste, les rappeurs se sont mis à kicker. Puis apprécier leur rap est devenu pour moi trop compliqué. Certains fans de mes raps font pitié. Ils n'ont jamais respecté mon envie de changer de métier. Niquez-vous, j'suis DJ et puis c'est tout. C'est le seul truc sur terre que j'ai envie de faire nuit et jour. Et pour me juger, qui êtes-vous? Retenez-moi, j'vais faire un malheur. J'ai envie de les gifler tous. Depuis que j'rappais plus, tu te rappelais plus que j'rappais aussi bien. Comme une histoire d'amour d'enfance qui vient bousculer ton quotidien. Le rap, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. C'est un truc d'américain. Ces blaireaux parlent mais ne connaissent pas ma vie. Leur salive glisse sur ma Gore-Tex. Pas besoin de parapluie. Oh, rien ne m'atteint. J'ai le cerveau galaxie. Les querelles futiles des humains ne me réveillent pas la nuit.
On vit nos meilleures vies. N'en déplaise aux tristes cires. On est des jouisseurs. On arrive sur la scène en hydroglisseur. On améliore la vie des gens avec ce morceau. C'est la fin des haricots. C'est Tequi Tek et Chilly Gonzo. Ferme les yeux, ça fait envie. J'te dis qu'on vit nos meilleures vies. C'est ça le putain de paradis. De vieux amis qui vivent leur meilleure vie.
Nos meilleures vies, donc, Chilly Gonzalez, notre invité ce soir en collaboration avec son ami Tequila Tex.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Teki que tu connais depuis longtemps, depuis l'époque TTC, t'avais travaillé sur Partie de Plaisir, son album Pop en 2007, je crois, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on le disait un petit peu, t'as collaboré en quelques années depuis 2023 avec beaucoup d'artistes. Issus du rap francophone, que ce soit Jean Jass, Souffrance, Théodora. Quel est le point commun entre ces artistes-là? Qu'est-ce qui fait que tu aimes, que tu arrives à créer des moments à chaque fois avec des gens aussi différents que Théodora et Jean Jass? À ton avis, qu'est-ce qui lie toutes ces personnes-là?
Ben, je crois que j'ai une espèce de émerveillement dans le rap francophone, dans le sens où... depuis que j'ai fait le code avec toi, que j'ai fait Grunt numéro 63, j'ai compris que plein de rappeurs connaissaient ma musique.
Ouais.
Et ils connaissaient soit à travers, parce que leurs parents écoutaient ma musique très souvent, ou ils étaient fans des trucs que j'ai fait avec Drake, même de temps en temps vraiment fans de mes rap ouais. des années 2000. Sheldon m'a parlé de me voir en concert, je crois en 2011, quand je faisais mon album The Unspeakable Chilly Gonzalez, un album de rap avec orchestre, hyper drumless, avant le fait.
Avant, oui. Avant Griselda.
Ouais. et voilà. Et donc, il y a un moment où... des gens m'écrivent, on commence à se renifler. Des fois, il y a un rendez-vous qui se produit, des fois pas. Il y a plein de rappeurs avec qui je discute, on se respecte, c'était pas encore le moment. Des fois, j'ai très très vite rencontré en studio, à Souffrance par exemple, on s'est trouvé en studio. Lui croyait que moi je faisais un morceau avec lui en feat. Moi je croyais que je faisais un morceau pour lui. Moi j'étais en feat. Finalement, moi j'avais raison parce qu'il est sorti sur son album. Ça s'appelle Barbecue en hiver.
Ouais.
Mais surtout, je crois que c'est parce que le couleur de l'album était beaucoup basé sur des morceaux que je fais avec Tony Toxic pour l'album. J'ai dû participer à bien la moitié de l'album Hiver-Automne avec Souffrance. Après, il y avait un concert au Hyper Weekend Festival où moi, j'avais contacté Théodora, par exemple, en avril 2024. C'était bien avant qu'elle sorte Congolaise et tout ça.
Ouais.
Et moi, j'étais fan d'elle. Et j'ai demandé, écoute, qu'est-ce que t'as un peu en stock? On va faire des reprises de tes morceaux. Et elle m'a fait jouer un morceau de... une version de Il me rit tout sonné qui n'était pas celle qu'on a entendue sur la première version de l'album, un truc avec un presque drum and bass influence. C'était un truc un peu indie rock. On entend juste le même accord, le truc, mais un peu dans le style de son titre Mon casque pour les gens
ouais.
qui connaissent.
Morceau extraordinaire.
Un peu rock, voilà. Et moi, j'ai dit, ah, ça serait bien de faire ça en version un peu Lana Del Rey. Moi, j'adore Lana Del Rey. Et j'ai vu que Théodora, avec ce truc de diva un peu épique et tout ça. Donc, finalement, on a commencé à bosser sur ça. Et en entre-temps, ben, tout a explosé pour elle. Et le concert, c'était en janvier 2025. Moi, j'avais même peur, peut-être qu'elle va annuler sa prestation, qui aurait été compréhensible, vu que tout a changé pour elle. Mais finalement, elle est venue. Et on a fait le morceau. Sans savoir que c'était un truc dans le narratif de la carrière de Théodora où, finalement, la fille qui chante congolaise peut aussi chanter comme ça. Des fois, il y a des narratifs qui s'imposent comme ça et c'est pas forcément ce qu'on avait envie de faire tous les deux. Parce que nous, c'était un rendez-vous en avril 2024 qui a mené à ça. Après, les gens imposent leur narratif. Après, ils peuvent dire plein de choses, positives ou négatives, sur le fait qu'elle fait un morceau avec un pianiste et un violoncelliste. Mais c'est marrant, parce que pour nous, c'est juste, on a décidé de faire ça parce qu'on avait envie. On pense jamais à la narrative que les gens peuvent imposer sur un truc comme ça. Mais finalement, c'est des artistes... que j'adore, j'ai envie de faire du son avec eux. Et pour Zilch, pour revenir à l'émission, ben on demande beaucoup des artistes, finalement, ouais. parce qu'ils sont filmés, ils doivent écrire sur place, et après, ils doivent subir un peu toutes ces surprises assez bénévoles, mais déstabilisantes. On ne veut jamais moquer des artistes eux-mêmes, mais on se moque peut-être de la situation, un tout petit peu. Par exemple, avec Daniil, on a fait des recherches style Nardoir. Si les gens connaissent, c'est un journaliste canadien,
intervieweur,
légendaire, qui fait des recherches hyper profondes pour après sortir des trucs. Et la réalisatrice Francis Salvatore, elle a capté que Daniil, il avait sorti une reprise de le générique de Harry Potter version maghrébène, qui a explosé tout sur Twitch, bien avant qu'il soit le rappeur chanteur chanteurs ouais. qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, finalement, il y a un moment où on est en train d'écrire, et puis il y a un stagiaire habillé en Harry Potter qui arrive à passer l'aspirateur pendant qu'on travaille, un truc qui ne se passe jamais. Ouais, ouais. Parce qu'il n'y a pas les stagiaires qui passent l'aspirateur en séance de studio, on est d'accord. Mais voilà, donc c'est un truc, et quand Daniel voit ça, il comprend que nous, on a fait un très, très deep dive sur son passé. Et donc, on ne se moque pas de lui. C'est un hommage à lui, finalement. Mmh. Et c'est un moment tellement intime, même si c'est surréaliste, bizarrement, c'est hyper réaliste, parce qu'on voit sa réaction en temps réel. Et lui, il est hyper surpris, bien sûr. Il y a plein de moments comme ça. On a fait 6 épisodes avec 6 artistes différents qu'on va découvrir tous les 2 semaines sur ma chaîne ou le chaîne de Grunt YouTube. Et c'est ça le but de Zil, c'est de faire un épisode de 15 à 20 minutes qui commence avec l'arrivée au studio. Après, il y a toutes les surprises qui se déroulent, tous les guests qui arrivent, tous ces moments qui me surprennent même moi-même. Et finalement, on finit à enregistrer le morceau en live. One shot, sans grid, sans prod, vraiment piano, voix. Et c'est génial parce qu'il y a un manque d'imperfection qui rend le truc hyper authentique à chaque fois.
Alors, tu as mentionné aussi évidemment ce live avec Théodora. Je suis obligé, je me sens obligé qu'on écoute quelques secondes.
Pourtant, je suis juste passionné, au point de perdre sommeil. Si je t'aime et que ça va pas, sans te demander, je te passe mon aide.
Quelle beauté. Ça a vraiment été un moment, effectivement, comme tu disais, quelque chose qui n'était pas prévu, tu l'as expliqué, mais qui a vraiment été important, je crois, aussi bien pour toi, dans ta place ici, en tout cas en France, que pour elle, à un moment, effectivement, où, comme tu l'as dit, beaucoup de choses se passaient dans sa carrière, où elle a changé de statut, complètement. Je crois que tu as aussi d'autres choses qui sont prévues avec des artistes francophones. On en parlait un petit peu en antenne. Je crois qu'il y a notamment quelqu'un comme Kekra, avec qui tu as commencé à connecter. Et ça, je te cache pas que moi, en tant qu'auditeur de rap francophone, ça m'excite un peu.
Ben, c'est excitant surtout parce que je fais tout l'album avec lui. Il y a aussi Banks Beats et Hot Track très impliqués dans le truc. Mais musicalement, la matière musicale, comme Kekra, c'est quelqu'un avec une culture musicale de vraiment de malade qui a envie d'aller très 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 loin. Ben, il m'a vraiment demandé de lui pousser hors le zone de confort musical pour un album qui va sans doute sortir en 2026. On ne sait pas exactement quand. On est en train de finir le projet. Ouais. Mais Kekra m'a contacté grâce à Nos Meilleures Vies qu'on vient d'écouter avec Tequila Tex. C'est un grand fan de Tequila Tex d'ailleurs. Et il m'a contacté d'une manière assez cryptique parce que c'est quelqu'un qui fait zéro following. Donc tout ça. Donc à un moment, tu reçois un message. On se verra bientôt. Et je dis, oh, ah ouais?
C'est une menace?
J'ai rien demandé, moi. Non, mais donc un truc hyper cryptique et un moment où vraiment le truc se fait et on se voit en studio. Et ben, depuis, j'ai dû passer une vingtaine de jours avec lui en studio et à chaque fois, on va de plus en plus loin. Et c'est vraiment un des musiciens qui me l'a plus impressionné depuis très très longtemps, j'avoue.
Tu en as déjà parlé, mais ce qui est aussi assez frappant avec toi, c'est la manière dont, malgré ton éducation musicale classique, le fait que tu connaisses des œuvres estampillées, enfin des très grandes œuvres dans la musique, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais vraiment de jugement de valeur. Alors, tu peux avoir des jugements de valeur sur des artistes, tu l'as déjà eu dans le passé, mais pas sur des genres en tout cas. J'ai toujours eu ce sentiment-là que chez toi, tout est bon à prendre si c'est bien fait, si c'est bien produit, si c'est fait avec de la culture, avec de l'intention, avec de la sincérité. Ça devient d'où cette espèce d'absence en tout cas de hiérarchie dans les genres musicaux?
Ben, il y a une hiérarchie, mais je dirais que le rap est au top. Donc il y a une hiérarchie.
Ça veut dire que c'est la meilleure musique à tes yeux?
Ben, c'est la musique où il y a le plus d'énergie, c'est la musique où les gens qui pratiquent cette musique, c'est les gens qui ont le plus d'exubérance, qui sont le plus contents de pouvoir faire cette musique. Et c'est ça que moi je cherche. Donc quand j'ai étudié le classique et le jazz, j'ai toujours compris en parallèle que c'était pas la musique d'aujourd'hui. Donc je voulais utiliser tout ce que j'ai appris au service de la musique d'aujourd'hui. Si j'aurais été né en, je sais pas, 1850, j'aurais été bien dans le truc classique, l'époque de Franz Liszt. Franz Liszt, c'était un star de l'époque. C'était, tu vois, Richard Wagner, c'est le Kanye West de son époque, bien et mal. et si j'aurais été dans l'époque, l'âge d'or du jazz, à l'époque de Dave Brubeck et Take Five et tout ça, j'aurais été bien dans le jazz, mais j'ai compris que c'est des, ça, c'est des musiques pour moi qui sont plus, c'est plus pour des initiés.
Ouais.
Et moi, je veux être où il y a l'énergie. Les gens, surtout en 2025-26, dans plein d'industries de musique, les parties des genres de musique, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Ah, l'industrie est dure, c'est plus comme avant. On entend ça très rarement dans le rap. On est juste content de faire des morceaux. Souvent, je passe en studio avec un rappeur, on commence 4 ou 5 morceaux, et il n'y a rien qui sort, et on s'en fout, on est juste content, on danse, on kiffe, on chante, on est juste vraiment là pour pratiquer notre métier de musicien, et je trouve cette énergie très addictive, et j'avoue, j'ai fait 2-3 séances où j'ai refait un peu la chanson, ou avec des groupes, ou dans la musique classique et jazz, et j'ai trouvé ça un peu mort, un peu sans joie, et je dis, ah, j'ai hâte que je peux reprendre une autre session avec des rappeurs maintenant, parce que c'est ça qui nourrit un peu mon énergie et qui m'inspire. Et donc, du coup, je suis très, très ouvert. Je bosse avec vraiment plein de jeunes là en ce moment. Et c'est parce que je kiffe leur musique. Et surtout, ils ont envie de faire du son avec moi. Donc, moi, c'est juste une belle activité. Après, s'il y a des trucs qui sortent, moi, je suis content aussi. Il y a plein de trucs qui vont sortir là. J'ai travaillé sur l'album de Ziné, par exemple, que je connais assez bien. J'étais sur son dernier album. Elle a également participé à Zilch à un moment en tant que guest spécial pour un autre artiste. On verra. Elle était chez le Hyper Weekend Festival. Et donc, son album qui est Bill, qui va sortir ce printemps avec un titre qui va sortir même d'ici 10 jours, je crois, sur laquelle j'ai beaucoup participé. Il y a un projet avec Dime,
le rappeur suisse.
Le rappeur suisse qui croit en moi en tant qu'artiste complet, où je fais pas mal de couplets, pas mal de hooks, pas mal de voix. Un projet vraiment en commun qui va sortir soit avril, mai, juin dans ces eaux-là. Il y a un projet avec La Rumeur, un album en entier qu'on a fait au studio Ferber avec Renaud Le Temps, qui va surprendre beaucoup beaucoup de monde, je crois, où ils ont pris beaucoup d'énergie aussi à faire ça, qui va sortir fin d'année. Donc c'est vraiment là, je vis ma meilleure vie, comme je dis dans la chanson,
comme tu dis dans le morceau. Bon, puisque tu parles de ta relation avec le rap, évidemment, quand on parle de rap mais aussi de pop musique, il y a un nom qui est inévitable, c'est celui de Drake. Évidemment, un artiste que tu l'as dit, tu connais, à qui tu as collaboré. Et là, justement, c'est l'heure, non pas du live, mais d'un moment où tu vas, je crois, nous raconter un peu ton lien musical avec Drake. C'est tout de suite dans la régulière Chilly Gonzalez.
Oui, Drake, ou en anglais, Drake. J'ai appris que Drake était fan de moi en 2009, qu'il était à mes concerts, et dit en interview qu'il écoutait solo piano pour se réveiller le matin. Et moi, j'aime bien être utile, donc j'étais assez content. Après, il sort son mixtape en 2009, So Far Gone. Et là, il y avait un morceau de solo piano qui avait pris, et j'ai dit, c'est trop bien, il m'a samplé. Donc j'allais écouter, le morceau s'appelle Outro. Mais finalement, il ne m'a pas vraiment samplé. Sampler, ça aurait été de prendre quelques mesures et de rapper ou chanter dessus. Bizarrement, il a juste pris le morceau en entier, tous les 3 minutes de mon morceau, sans rien rajouter, en le renommant Outro. C'était hyper bizarre. Ah non, il faut que je dise, il avait rajouté quelque chose. Le petit son d'une bouteille de champagne qui ouvre. Pop. Voilà. J'étais un peu partagé parce que mon équipe voulait qu'on lance les avocats et tout ça, parce que je n'étais pas du tout crédité. Ouais. Donc, il y a une différence entre être utile et utilisé. Mais je me suis dit, c'est une porte ouverte quand même. Je vais essayer de travailler avec ce rappeur. Finalement, sachant que nos studios, ils étaient dans le même complexe, on était voisins. Et donc, finalement, on a pu travailler ensemble. C'était génial. J'ai travaillé sur Marvin's Room. Fameux outro de piano, avec le message d'une femme qui parle dans un message audio à Drake et tout ça. Et après, en 2011, j'ai pu travailler sur Nothing Was The Same, sur un morceau qui s'appelle From Time. Jené Aiko en featuring, j'adore ce morceau. C'est un morceau phare pour plein de gens. Et donc, je me suis dit, OK, c'est bien. Maintenant, je suis en collaboration avec Drake. Et finalement, le truc s'est bouclé en 2019. Drake a proposé de ressortir ce fameux mixtape et clearer tout. Donc moi, je savais, je ne voulais pas d'argent, je voulais juste mon crédit. Et donc, on a demandé qu'il ressort So Far Gone avec le morceau de solo piano bien crédité. Et là, le morceau arrive. J'ouvre Spotify et je vois Outro featuring Chilly Gonzalez. Encore une fois, je suis partagé. Je suis content d'être là, bien sûr. Et en même temps, comment c'est possible de faire un feat sur son propre morceau? Voilà. Je veux tout simplement dire que le morceau ne s'appelle pas Outro. Ça s'appelle The Tourist, tiré de Solo Piano 1. Je vais le jouer maintenant. Sachant que le dernier accord is A minor.
Merci beaucoup, Chilly Gonzalez. Comprendront ceux qui doivent comprendre. Merci beaucoup.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Merci pour ça, pour ce live.
Ben, c'est une histoire que j'adore raconter,
ouais.
Parce que on comprend vraiment qu'il y a des choses vraiment liées à la chance, des trucs random, où un jour on comprend qu'il y a un rappeur en ascendance qui écoute mon album pour se réveiller,
ouais.
Et puis ça change ma carrière,
ouais.
Finalement, d'un jour à l'autre.
Mais la sienne aussi, parce que les morceaux sur lesquels tu as collaboré, tu sais, c'est drôle, parce que c'est pas forcément les plus grands tubes, même s'ils ont marché, mais quand on parle entre fans de Drake, et je me considère être un fan de Drake, j'en parlais avec Daniel, par exemple, qui était là la semaine dernière, pour lui, le plus grand morceau de Drake, c'est Marvin's Room. C'est le cas de A2H, aussi, c'est le cas de Carmen, beaucoup de rappeurs qui sont fans de Drake, donc, mine de rien, et From Time, et c'est aussi un... un des favoris des fans de Drake.
Oui, ben je l'entends très souvent utilisé en instru pour des freestyles.
Ouais,
je me souviens que Zamdan a fait un freestyle, je crois, ici, à cette table, il y a 2 ans, sur From Time. Et, ouais, il est...
Donc, c'est pas n'importe quel morceau de Drake. Tu sais, il y a beaucoup de producteurs qui ont collaboré avec Drake dans leur vie. D'ailleurs, c'est toujours un peu... Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui collabore, un nom qu'on connaît pas, on se dit qui a produit sur le dernier Drake. Toi, t'as quand même eu ce moment-là où t'as collaboré sur des morceaux qui font date dans la discographie de Drake. C'est pas n'importe lesquels.
Ben ouais, je veux dire qu'il est pas bête. Et ce que moi je peux apporter à un artiste comme ça, c'est une multiplication d'émotions. Comme a dit Jay-Z à l'époque, make the song cry, fait pleurer la chanson. Et c'est aussi pour ça que des fois, les outros ou les intros, c'est un truc que les gens viennent assez souvent vers moi.
Ouais.
En parlant de Daniil, on a un peu rendu hommage à l'outro de Marvin's Room sur le morceau À l'arc, dans le dernier Daniil qui est sorti. Félicitations d'ailleurs, Daniil.
Ouais.
Et donc, c'est déjà partie de ma mythologie dans le sens où...
Exactement.
Où si les gens vont douter de Chilly Gonzalez dans le rap, il y a un moment où je peux dire « Have you heard Marvin's Room ?» Ouais. Et voilà, les gens vont respecter ça. Après, est-ce que ça veut dire que ma musique a forcément plus de valeur parce que j'ai eu ce truc un peu random qui m'est arrivé? On ne sait jamais, mais il y a des moments comme ça, il faut en profiter. Bien sûr. Suis toujours la même personne, j'ai toujours la même musicalité. Mais bien sûr, ça fait un peu des trucs
qu'on
met sur le CV et les gens vont bien sûr ils vont se réveiller quand on parle de Drake ou de Daft Punk. Mais bien sûr, mes collaborations avec les plus petits artistes que les gens connaissent le moins, mon projet en commun avec Obia le Chef, ça m'est aussi précieux que mes collaborations avec Drake, peut-être même plus, parce qu'avec Obia le Chef, c'est vraiment bien entendu, on a passé un bon moment à Montréal, à comprendre que lui, c'est vraiment Tony Soprano et moi, c'est Larry David. Et c'est quand même 2 émissions. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont HBO. Donc, il y a quand même un lien entre Larry David et Tony Soprano. Et pour nous, il y a un lien entre Chilly Gonzalez et Obia le Chef. Donc, c'est très important de ne pas non plus surestimer le fait que j'ai travaillé avec Drake, Daft Punk ou Theodora, même si c'est des noms phares qui font que ça me crédibilise. Mais bon, il ne faut pas... You know, don't hate the player, hate the game. Voilà.
Absolument. Est-ce que, alors, en plus, tu parlais de Theodora, tu as expliqué aussi que vous avez commencé à collaborer ensemble quand elle n'était pas encore... devenue la star qu'on connaît aujourd'hui. Je voulais parler de quelques morceaux, tu sais, de rap qui semblent de la musique classique. Parce que c'est quand même quelque chose qui est... La musique classique, c'est une matière dans le rap qui a été énormément travaillée par plusieurs producteurs à travers les âges. Je voulais... J'en ai sélectionné quelques exemples, je ne sais pas si on va pouvoir tout écouter, mais il y a des exemples très classiques. Par exemple, Beethoven, qui a été samplé. Ça, évidemment, tu connais, évidemment. Est-ce que tu as en tête des morceaux qui l'ont samplé? Moi, j'ai un morceau en tête, évidemment, qui est sorti en 2002, si je ne dis pas de bêtises. C'est Nas sur l'album Godson.
I know, I can.
Exactement. Listen up. Ce genre de sample très évident comme ça, est-ce que ça te plaît ou est-ce que tu trouves ça un peu feignant?
Non, mais
je trouve ça efficace, mais...
Moi, je crois qu'il y a un concept. Quand on utilise un morceau, soit dans le classique, soit dans le jazz, soit... Moi, par exemple, pour le morceau French Kiss, qui est un morceau concept sur la culture française, j'ai fait pareil avec Claire de Lune de Claude Debussy. Voilà, donc, moi, j'ai fait pareil. J'ai voulu que la mélodie se repère. Je l'ai rejoué comme quelqu'un a joué. Là, on entend que c'est même pas un sample,
oui,
d'un disque de Beethoven pour Elise, mais que quelqu'un a rejoué sur un piano MIDI qui rend le truc encore plus transparent. Moi, j'ai fait pareil sur Claude Debussy. Après, c'est un truc concept. Donc, je crois que le concept, ça marche. C'est comme... c'est des fois, on prend un refrain des années 80 dans le rap et on va le rechanter avec des autres paroles. Et c'est un truc concept. Le but, c'est qu'on tape dans une espèce d'inconscient commun de tous les gens.
Exactement.
Pour après profiter de ça, pour faire un statement. Après, il y a des samplings beaucoup plus malins, où on ne sait pas ce que c'est, et surtout parce que souvent, les rappeurs ne veulent pas clearer leur sample.
Ouais.
Ils font le maximum pour déguiser le sample, le pitcher, prendre juste des petits bouts pour être plus malin. Ça, c'est un autre truc, c'est un truc de digging, et des fois, on peut regarder des tutos sur YouTube pour voir comment quelqu'un a chopé quelque chose de jazz jazz ou de classique, ça c'est très intéressant aussi, mais ce qui compte c'est le résultat, bien sûr.
Jean Jass, que tu connais très bien, me disait justement que lui qui est rappeur et producteur, c'était un jeu justement de sampler des choses et de les rendre le moins reconnaissables possible. C'était voilà, venez me chercher, c'est ce qu'il disait, essayez de trouver ce que j'ai samplé. C'était voilà, c'est presque un jeu de producteur qui cherche à camoufler ça. Il y a d'autres, évidemment, il y a plein d'exemples de rap qui semblent de la musique classique. Par exemple, un des plus grands morceaux, si ce n'est le plus grand morceau d'NTM, c'est That's My People. Morceau classique, qui est un solo de Cool Chain, hein. Même Joey Starr lui-même avait reconnu et avait dit que c'était sûrement le plus grand morceau d'NTM, alors qu'il n'est pas dessus. Et ça, ça sample évidemment Frédéric Chopin. Et c'est une... D'ailleurs, c'est un sample, c'est une production d'un autre rappeur français, Solis et Phil, qui a vu un tube notamment dans les années 90. Et là, c'est un peu moins évident que sur le morceau d'avant. C'est quoi, toi, les compositeurs les plus... Parce que là, on parle de Beethoven, Chopin, Bach, Mozart. Qui sont, toi, les compositeurs comme ça qui t'ont le plus marqué ou tes préférés?
Ben, Chopin, dans le sens où c'est un pur mélodiste, donc ça rapproche plus l'esthétisme de pop.
Ouais.
C'est transparent, c'est pas prétentieux, les morceaux sont 2-3 minutes avec un ou deux idées qui tuent, donc ça rapproche beaucoup plus de mon esthétisme. C'est pour ça que j'en parlais l'autre jour, parce que des fois, sur mes pianos, on entend mon souffle. Et la raison, c'est parce que moi, j'ai appris, à travers Chopin, que quand on joue une mélodie avec la main droite, qu'il faut un peu breathe in, jouer la mélodie et après expirer. Et ça, c'est une façon d'être sûr qu'on va chanter avec la main droite. Ça fait que la mélodie soit... C'est ça l'esthétisme de Chopin. Il voulait un peu faire comme les gros tubes à l'époque dans des opéras italiens. Je sais pas, des Puccini, des autres compositeurs, Verdi, tout ça. Ça s'appelait le cantabile, je crois, en italien. Et ça veut juste dire que c'est un chant très, très lyrique. Et ça se prête beaucoup au rap parce qu'on veut toujours des mélodies. On veut toujours que le truc se retient et on veut toujours que ça soit dramatique et émotionnel. Et donc pour moi, Chopin, il est vraiment fait pour le rap et fait pour la façon dont moi je compose mes œuvres de solo piano. Chopin, c'est une très très grande influence. Après, le personnage, je crois, le plus pertinent, c'est Franz Liszt, parce que c'était lui qui était un peu le premier rockstar, qui a un peu compris à se mythologiser et de dire qu'il a fait un contrat avec le diable pour devenir virtuose.
Il y avait un truc de pop star avant l'heure, en fait, presque.
Exactement. Ouais. Le premier pour faire un récital 100% au piano, qui a bougé le piano dans la position que moi j'utilise toujours aujourd'hui, où on est un peu ouvert au public pour être le plus ouvert à l'audience qui nous écoute et tout ça. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a inventé la position du star, je crois, avec laquelle on vit toujours le culte de personnalité musicale.
Dernier extrait, juste parce que là il est évident aussi, il est assez marquant, morceau de Buzz Driver et D-Styles, Imaginary Places, en 2002. I'm just here to hold your hand when you die and to show you around imaginary places. Put many lumps in my bloody stump and it will have a small bit of Évidemment, donc, ça sample ce morceau, enfin, cette composition. J'aime beaucoup, moi, la manière dont ils l'ont fait. En fait, ça en fait quelque chose de très cartoonesque. Je sais pas ce que t'en penses, mais la manière dont Buzz Driver rappe dessus, en plus avec ce flow très rapide, ça en fait quelque chose de différent, même si le sample est évident. Je trouve que la manière dont il a été pitché et accéléré en donne quelque chose de presque kitsch et de un truc très dessin animé, mais qui fonctionne.
Bah, ça me fait penser un peu à Give Me Some More de Busta Rhymes, où
exactement,
il a samplé le BO de Vertigo, de
Hitchcock.
Bernard Herrmann, qui est un grand compositeur de films dans la tradition classique, mais que lui, il a voulu s'échapper du Tour d'Ivoire et donc il est allé à Hollywood pour bosser avec Hitchcock et plein d'autres. D'ailleurs aussi, il a fait Citizen Kane, il a fait les plus gros BO de cette époque. Et moi, j'admire beaucoup Bernard Herrmann parce que pareil, il a dit « Ah, j'ai pas envie de passer mon temps dans les salles de concert. J'ai envie que ma musique soit écoutée par tout le monde sans qu'il fasse compromis sur le contenu. » Et il a trouvé vraiment un moyen de s'exprimer à travers ses films, des films noirs, films à limite d'horreur, des thrillers et ouais. tout ça. Et on entend vraiment des trucs hyper avant-gardistes, mais qui passent dans le mainstream. Et c'est ça que j'adore dans le rap, c'est que ouais. au début des années 2000, on entendait des trucs hyper avant-gardistes, Busta Rhymes notamment, où ça poussait vraiment l'enveloppe musicalement, mais c'était hyper mainstream. Et je me souviens des premiers interviews de Busta Rhymes, il parlait de lui-même en tant qu'entertainer. C'est là où le mot est devenu phare pour moi, parce que je dis, ah ouais, j'ai pas envie d'être artiste, parce que artiste, c'est prétentieux. Entertainer, ça veut dire que, même en étant avant-gardiste, on peut quand même avoir le public le plus large possible qu'on mérite. Soit petit, soit moyen, soit large, mais on va faire l'effort quand même pour élargir ce public à chaque fois.
Je trouve que ce que tu dis est parfaitement incarné par une artiste aujourd'hui, c'est Théodora. C'est qu'en fait, une artiste qui est extrêmement fédératrice, mais qui est radicale aussi dans sa proposition et assez avant-gardiste. Et donc, je propose qu'on écoute le dernier tube en date, alors, qui est un morceau de DC's, mais qui est en collaboration avec Théodora.
Oh, heureusement, tu joues pas l'autre titre qui vient de sortir.
Quel autre titre qui vient de sortir ?
Games.
Ah, Gims, non, c'est pas celui-là
non,
qu'on joue.
Ok, non. Heureusement.
Non, tu l'aimes pas celui-là ? Moi, je le joue avec ma fille. Ma fille l'aime bien. Tu sais, quand t'as un enfant en bas âge, c'est plus toi qui décides. Donc, ma fille préfère ça à Curtis Mayfield. Voilà, c'est comme ça.
Mais
c'est
vas-y, comme... mélodrama alors. Non, je dis rien.
On met mélodrama. This is et Théodora. Let's go.
J'ai fait encore toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel. Ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle. Tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi. Tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. Comme un condense mais les mélodrames. Ça fait si mal que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mais les mélodrames. C'est donc la dernière fois qu'on s'accompagne.
Oh, pleine surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine. J'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime en homme pas deux. Tu me donnes le but d'hiver. Je suis dans un étoile mais je repense à hier. Galerie RER. C'est ton pied, c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air. Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes bras. J'ai jamais vraiment été ta valentine. Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes bras. J'ai jamais vraiment été ta valentine.
C'est tout à ton bonheur de me vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal que ça fait pas longtemps. Son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta valentine.
C'était donc DC's avec Théodora pour le morceau Mélodrama, extrait de le dernier album, du dernier album pardon, de DC's qui s'appelle On s'en rappellera pas.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Et ce soir, je suis avec Chili Gonzalez qui est avec nous jusqu'à 23h pour la sortie du show Zilch, donc qui est le premier épisode disponible sur YouTube, le YouTube de Grunt, et en collaboration avec ta chaîne à toi, Chili. Et c'est l'heure des recommandations, et tu m'as donné plusieurs recommandations, et notamment une recommandation qui m'emplit de joie, mais j'entendais pas moins de toi. C'est l'album Teflon Don de Rick Ross, sorti en 2010, si je ne dis pas de bêtises, au moment où Rick Ross prend le contrôle du monde. Et j'aimerais qu'on écoute un court extrait d'un morceau que j'adore, en featuring un artiste qu'on a cité, Drake, c'est Aston Martin Music.
Pull up on the block in the drop top chicken box. Mr. KFC, VVS is in the watch. Living fast where it's all about that money bag. Never front you, take it there, it ain't no coming back. Top down right here is where she wants.
Et également avec Chrisette Michel aussi au refrain qui fait un refrain. Enfin, il y a deux refrains en un en fait. Il y a Drake, Chrisette Michel. Pourquoi cet album? Pourquoi ce moment?
Ben déjà, Rick Ross, pour moi, c'est mon rappeur phare de cette époque-là parce qu'il est secrètement lyrique. On parle souvent de le rap technique. Moi, j'aime bien les rappeurs qui se montrent pas techniques, mais
qu'ils sont.
Quand on voit là,
pour effortless. Moi, c'est comme ça qu'ils disent.
Tu vois, moi, je trouve que quand on écoute un album comme Larry June, Two Chainz et Alchemist qui est sorti cette année, je mettrais dans le même catégorie.
Life is Beautiful, qui est exceptionnel.
Ouais,
voilà.
Ouais. C'est pas des rappeurs techniques majuscule T. Mais moi j'aime beaucoup les rappeurs comme ça. Rick Ross, pour moi, déjà il est connu pour son oreille pour les instrus, mais je crois qu'en parole il est quand même assez divers. Pour moi c'est pas un rappeur monotone dans le choix de ses sujets. Et j'aime bien que Teflon Don soit, je crois, 10 titres, si je ne me trompe pas.
Oui, il est assez court, 10 ou 11, tout à fait.
C'est ça, voilà, c'est un peu comme un Michael Jackson Thriller. Ça veut dire que moi, j'aime bien les albums comme ça, parce que surtout dans l'époque de streaming, on met tellement de titres et tout ça, on a l'impression de faire un peu du shopping. Mais avec un album de 11 titres ou 10 titres, et moi, j'encourage déjà les rappeurs avec qui je bosse pour faire ça, pour dire non. Vous allez manger ce que nous on a préparé dans l'ordre que nous on avait préparé. Parce que 10 titres, on va pas vraiment voir la chose de la même manière et dire ah, c'est un compil, j'ai le droit de prendre ce que je veux. Mais finalement, c'est juste un truc qui, avec le temps, qui est tellement bien duré. BMF, ça m'a explosé la tête parce que c'était un des premiers à prendre un instru comme Lex Luger et tout ça et de mettre ça dans le mainstream. Mais surtout, l'économie des mots de BMF.
Tout à fait.
Il y a des bars avec deux mots.
Ouais.
Très très souvent, par exemple, moi j'aime beaucoup cette économie. Il laisse beaucoup beaucoup d'espace dans les rap et il est pas là pour faire ses preuves en tant que rappeur. Il s'en fout, mais quand on voit de près, on comprend que c'est un très bon technicien. Moi j'adore Freddie Gibbs pour la même raison, Max O'Cream, je sais pas, tous mes rappeurs préférés, c'est pas des rappeurs soi-disant techniques, mais qu'ils ont du technique,
oui, et qui ont en fait cette espèce de nonchalance. Mais ça, il rappe extrêmement bien sans en mettre plein la vue, parce que parfois c'est quelque chose qu'on peut reprocher aux rappeurs dits techniques, c'est faire beaucoup d'assonances de multisyllabiques, parfois au détriment du sens. Là où un Larry June, par exemple, moi je suis un grand fan de Larry June, on cite beaucoup l'album que tu as cité, effectivement, avec Alchemist et Two Chainz. J'aime aussi beaucoup ce qu'il fait avec Cardo, enfin voilà.
Et ce que j'essaie de faire au piano aussi, c'est de cacher un peu ma virtuosité et peut-être juste avoir un petit truc de temps en temps qui montre que je serais capable d'être virtuose, mais je vais pas vraiment le faire. Et donc je trouve ça dans mes rappeurs préférés et ça m'inspire d'être encore plus économique moi-même, juste avec mon jeu de piano, soit en solo, soit avec les rappeurs. Et quand je conseille des musiciens, surtout, c'est de cacher leur virtuosité et c'est un vrai travail. Je suis plutôt en désavantage d'être aussi formé que je le suis. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour que cette formation, il y a toujours une tentation de vouloir impressionner les gens au lieu de les toucher. Et la musique, c'est pas pour impressionner les gens.
Chili, c'est l'heure de la question qui tue. Pour toi, toi qui as cette culture musicale, qui écoute énormément de choses, quel est pour toi le plus grand producteur pop au sens large des 30 dernières années?
30 années, ça veut dire qu'on démarre en
96-95, quoi.
Donc moi je mettrais un producteur de rap, voire pop, qui est devenu être connu à début des années 2000, qui est toujours avec nous, c'est Pharrell Williams.
Ouais, okay. J'étais sûr que t'allais dire ça.
Parce que, et même si c'est pas forcément celle que j'écoute le plus, la façon de ramener de la vraie musique... ben, ça colle parfaitement à la discussion qu'on vient d'avoir sur la virtuosité.
Et l'avant-gardisme aussi.
Et l'avant-gardisme, exactement. Donc pour moi, c'est incontestable, surtout la longévité, le fait qu'il soit toujours là, le fait que, même si on n'aime pas le tube Happy, c'était quand même un morceau qui a rassemblé le monde, et après qu'il est capable de toujours faire un album qu'il a fait avec Clips l'année dernière.
Absolument.
Ça montre le fait qu'il a, qu'il a rien perdu. En plus, au niveau entertainer, on voit qu'il fait des films, il fait son truc dans le fashion et tout. Il est toujours aussi relevant que quand il a commencé. Donc, ses 30 ans, c'est 3 décennies de Pharrell, finalement. Et nous, on vit là-dedans.
Et d'ailleurs, je réécoutais...
Merde, tu as connu que je vais dire ça.
Non,
je voulais te surprendre.
Mais parce que je pense que c'est la meilleure réponse, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça se joue entre lui et Kanye. Mais c'est un peu plus compliqué de citer Kanye aujourd'hui. Mais je pense que ça se joue entre les deux, parce que Timbaland n'a pas la même longévité. Là où Pharrell est encore là, et sort encore des morceaux, voilà, des choses. Donc je suis d'accord avec toi. En fait, j'avais envie que tu cites Pharrell, surtout. Chili, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Vraiment, c'était un plaisir comme d'habitude. On rappelle donc que le show Zilch est disponible, en tout cas le premier épisode avec Daniel sur YouTube. Il y aura aussi également un concert le 26 février au Touquet qui arrive très très prochainement. Merci vraiment beaucoup Chili Gonzalez. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission qui était préparée par Alexa Lacour et Redouane Tella. Une émission réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. La technique ce soir c'était Jérôme Ragano et Sofiane Aktib. Merci aux équipes web et vidéo. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.